Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été du week-end, le format qui veut du bien à vos oreilles. Le direct, recélant parfois quelques magies de dernière minute, nous décalons notre hommage à Manu Dibango. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 5 juillet. Dans quelques minutes, trotteuses et grandes aiguilles remonteront le temps jusqu'en novembre dernier. Nous y retrouverons Vincent Josse, qui avait alors déplacé son grand atelier dans les loges du Bataclan à la rencontre de Jean-Louis Aubert. C'était juste avant sa série de 8 concerts qui affichèrent complet. 18h40, votre rendez-vous cinéma avec Christine Masson. Puis nous ferons un saut à Marseille pour donner la parole à Caroline Di Borgo, qui depuis 3 jours investit le château de Forbin pour y exposer des œuvres inédites de post-graffiti new-yorkais des années 80. Enfin, 18h45, live avec celui pour qui l'amour est une philosophie et plane au-dessus de tout, le saxophoniste canado-haïtien Joey Homicile et son toujours magnifique album Love Matters. Vous avez le programme, le temps se suspend maintenant.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Émilie Blum-Metzinger.
Mais avant tout, et pour commencer ce Mac de l'été, partons ensemble à la recherche de l'empathie et de la bienveillance avec Isia, qui nous pousse à la révolte pour pallier l'éphémère. Elle qui veut tout partager, les rires, les larmes, l'ombre et la lumière, la voici, point levé, habillée d'un demi-slogan de mai 68 qu'elle dessine comme une déclaration d'amour à son père, à son enfant, à la vie, à l'amour. Dans le Mac de l'été, creusons jusque sous les pavés.
Passer le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. Je sais, c'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y'a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire, y'a tout qui reste à faire. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. S'étend plus loin que l'horizon. J'avance sans savoir ce qui m'attend. Sous les pavés, la plage, sur le sable, je m'étends. Je veux revoir la mer plus bleue que bleue, sans jamais se dire adieu. La liberté au point, le cœur à deux doigts d'imploser. Unis dans un même souffle, prêt à tout recommencer. J'ai peur de perdre la main face à ton besoin d'exister.
Mac de l'été en plein cœur de la playlist France Inter. On écoutait Isia dans Sous les pavés, extrait de son album Citadelle qui marque déjà les 10 ans de carrière de cet artiste même pas trentenaire. Quant à lui, le monde découvrait sa voix pour la première fois en 1977. On rejoint Jean-Louis Aubert qui était l'invité du grand atelier de Vincent Josse sur France Inter en novembre dernier pour la sortie de son double album Refuge. Ensemble, ils évoquent la pochette. On y voit Jean-Louis Aubert, la tête très légèrement penchée, nous fixant avec une tendresse infinie. Et pour décrire la couleur de ses yeux, très clair, Vincent Josse prononce ces mots, je cite, vers Émeraude. Voici la réaction de Jean-Louis Aubert.
Moi, je suis daltonien, donc je vois pas le vert, c'est marrant.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes daltonien.
C'est très intéressant, ce phénomène daltonien. Et je me suis, à 6 ans, en sortant de l'école, j'ai arrêté mon vélo avec un copain. J'étais dans les rues de Senlis et on venait de me dire que j'étais daltonien. En fait, ils ont eu du mal à le voir parce que dans les tests, des fois, il y a une petite tête de serpent. Alors, je voyais juste la petite tête, mais je voyais pas le serpent. Et je disais, il y a un serpent. Donc, il n'est pas daltonien. Et en fait, ils se sont aperçus que je trichais. Et j'ai arrêté mon vélo, mais je me vois encore, et ça, c'est des moments forts dans la vie, avec mon copain. J'ai dit, mais si on parlait tous du même monde, mais qu'on ne voyait pas le même monde. Et cette phrase, elle me taraude depuis. Je dis, c'était une réflexion pour un enfant qui était forte. Il me dit, mais t'as peut-être raison. J'ai dit, ça se trouve, on ne voit pas la même chose. Mais on s'est entendu sur des mots.
Si ça tombe, vous êtes auteur de chansons parce que vous êtes daltonien? Parce que vous voyez un autre monde?
Peut-être, peut-être, mais cette réflexion est très importante. Et après, on s'aperçoit que quand des gens ont des phobies, ils voient tout d'un coup un store rouge dans une rue et ça leur fait un truc émotionnel que vous, vous n'avez pas du tout. Et donc, on n'est pas dans le même monde. Donc, quand on voit l'autre, c'est aussi une perception différente. J'étais sur un petit voilier, j'étais en train d'être triste de cette séparation. J'étais avec un skipper, on était tous les deux, il buvait beaucoup, donc je le suivais. Donc on s'est échoué en Dominique, donc, le bateau était troué, on était sur la plage. Cette plage était dingue, il y avait un palmier, puis une grande liane qui avait fait les enfants, et on pouvait voler au-dessus de l'eau. Puis il y avait des vieux qui nous regardaient, puis il y avait un enfant qui amenait des fruits tous les jours. Il disait, je vous donne encore des fruits, emmenez-moi avec vous tous les jours. Et puis après, il a commencé même à faire des propositions sexuelles, emmenez-moi avec vous. Et moi, cette plage, c'était le paradis pour moi. Et tout d'un coup, c'est ça que j'ai raconté. Ben, j'ai écrit la chanson sur le bateau et je disais, mais tu sais, là-bas, tu vas voir, c'est dur. Et il était déchaîné, quoi, avec deux copains. Il voulait absolument monter sur le bateau et venir chez nous. Et la plage, cette chanson est née de ça.
Sur toutes les plages, de toutes les mers. Sur toutes les plages, il y a des morts qui tournent le dos à leur mère. Sur toutes les plages.
Dans le Mac de l'été, on écoutait Jean-Louis Aubert raconter la naissance, la genèse de son titre Les plages au micro de Vincent Josse. Souvenir de novembre dernier sur France Inter et du sable, on repasse au bitume, on quitte la Dominique pour rejoindre Paris. Vincent Josse est cette fois-ci sur le parvis du Bataclan, toujours avec Jean-Louis Aubert. Et c'est le moment d'invoquer l'histoire de cette salle, de tous les débuts, toutes les premières que Jean-Louis Aubert y a vécues et puis surtout ce choix puissant de jouer là-bas.
C'était un gros choix, c'était un vrai choix d'ailleurs, parce que... Mais en fait, là, ça fait 2 ans que ma vie, c'est de la couture. Commencé par un petit théâtre, j'ai enchaîné, tout d'un coup, le Bataclan s'est présenté à moi. Vraiment par hasard, parce que je passais en scooter devant. Et j'ai vu les petites lettres danser, et quelqu'un m'a appelé le même jour en me disant le Bataclan, il n'y a pas grand monde qui y joue, tu sais, Jean-Louis.
Pas beaucoup de Français, en tout cas. Hein.
Voilà. Et là, ça fait 2 ans que dans ma vie, je prends un peu les... Enfin, même plus. Hein. J'attrape les hasards. Enfin, les choses semblent venir à moi. Et je me dis, là, je peux pas dire non, en fait. Je suis né dans cette salle musicalement. J'allais voir des concerts à 5 francs quand j'avais 17 ans. J'ai eu des très grands groupes. Je buvais leurs doigts des yeux. Je voulais jouer
quoi comme groupe?
Genesis.
Genesis, on était 17 dans la salle. C'était un succès. Et j'ai vu les débuts de U2, évidemment les débuts de Police, puis les débuts de Téléphone, et puis le premier concert à Paris après la séparation de Téléphone aussi, qui reste un très bon concert, un souvenir incroyable.
toute ma vie est brodée de cette salle et j'avais vraiment, si elle s'anime pas ou si elle se réanime pas, ça pourrait devenir un supermarché ou un parking et ça, je supporterais pas. J'avais même l'impression qu'on s'est fait avoir deux fois.
Le Mac de l'été fait remonter des souvenirs du Grand Atelier, émission de Vincent Josse sur France Inter qui au mois de novembre recevait Jean-Louis Aubert. Et la raison première de cette rencontre, c'était la sortie de son double album Refuge. Je vous propose d'en écouter un extrait ici et maintenant dans le Mac de l'été, Aussi loin.
Aussi loin que voit ton cœur, aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ces chemins aller-retour, aussi faible que soit la force. Sans détour, car tu me plais. Mon amour vient comme je vais. Tu es mon point de non-retour.
Inter.
Aussi loin, la poésie salvatrice de Jean-Louis Aubert, extrait de son dernier album Refuge. Alors pour l'écouter en boucle, c'est la piste 4 sur le CD 1. On reste avec Jean-Louis Aubert, toujours au micro de Vincent Josse pour son grand atelier. Et c'est le moment de réveiller les premiers souvenirs musicaux de Jean-Louis Aubert. Les artistes qu'il écoutait quand il était tout jeune, ceux aussi qui l'ont accompagné dans sa carrière. À cet instant-là, Vincent Josse lui demande à quel âge il a découvert les Who.
13 ans. J'ai mes parents, je dis je vais voir un opéra. Ils ont été charmés. Un opéra, c'est très bien. Et ça a été, voilà, ma première liberté. C'était très très curieux. J'étais voir les Who jouer Tommy au théâtre des Champs-Élysées.
Le fameux opéra rock.
Les sièges se dévissaient tellement la musique était puissante. Et en fait, il n'y avait qu'une chanson que je connaissais dans cet opéra. C'était Humphrey. Oui. Et c'était les deux seuls mots que je connaissais en anglais. Je suis libre. Et je me suis dit, ça me plaît. Et puis, quand je disais que les chansons accompagnaient les gens dans leur première liberté, moi, les Who m'ont accompagné dans cette première liberté. Je suis rentré changé. Le lendemain, j'ai acheté la partition de Tommy.
J'ai décroché la guitare de mon père qui l'avait subrepticement accrochée dans ma chambre. Et sous l'oreiller, dans les toilettes, je jouais les accords de Tommy qui étaient compliqués. Donc ça m'a bien appris la guitare.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Et là, j'entends encore des choses que j'avais pas entendues au début. Ce qui nous arrive, c'est la chanson. Et là, j'entends des détails, j'entends des réverbes, un petit délai et tout ça. J'ai travaillé en plus avec l'ingénieur du son, Glyn Jones, qui est un des plus grands ingénieurs du son anglais. On a fait l'album Un autre monde avec lui. Donc, c'est magnifique. Et puis, voilà, je ne veux pas m'étendre, mais cette chanson a une drôle d'histoire parce qu'en fait, après, je me suis intéressé à l'histoire de Tommy, qui est un petit garçon un peu autiste parce que il a vu une scène un peu violente quand il était môme et que son père était parti à la guerre. C'est des choses après qui m'ont parlé. Et puis, il n'arrive pas à parler, mais il devient un peu un gourou. Donc, voilà, c'est l'histoire de cet opéra. Et puis, je sais que Peterson écrit tout ça et puis le fait écouter un journaliste du New Musical Express en Angleterre qui était un de ses copains et le gars lui dit mais ton histoire ésotérique là ça n'intéresse personne, enfin les mods Hollywood étaient des mods, donc c'était un peu des petits gars en scooter et ils sont tout le temps au pub à boire de la bière et tout ça, et donc dans la nuit il écrit Pinball Wizard et il transforme ce môme en champion de flipper à un moment parce qu'il a écouté ce journaliste et ça devient une des chansons phares de l'album.
Ah ouais, qu'on vient d'écouter.
Oui, pour que les gens qui écoutaient les Who se reconnaissent quelque part dans cette histoire qui était plutôt mystique en fait.
L'amour de Jean-Louis Aubert pour les Who dans le Mac de l'été. On écoutait un extrait de Pinball Wizard pioché dans l'album Tommy sorti en 1969. On se remet en mémoire un moment que vous avez vécu cette saison sur France Inter dans le Grand Atelier. Vincent Josse demande à Jean-Louis Aubert si ça lui arrive de reprendre le répertoire de Barbara.
Quelquefois, pas tout le temps.
Eh bien, pourtant, on a la preuve dans le Mac de l'été. 15 jours plus tôt, toujours sur France Inter, Jean-Louis Aubert était cette fois-ci l'invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Et oh surprise, voici ce qu'il joua.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit au printemps, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûler les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal. Mais dis, quand reviendras-tu? parti, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus.
Peut-être l'une des définitions de la grâce ou de l'élégance. Dans le mec de l'été, on se lovait dans un souvenir magnifique. 8 novembre 2019, le jour où Jean-Louis Aubert, guitare-voix, simplicité absolue, interpréta « Dis, quand reviendras-tu » de Barbara. Un moment vécu écrit en direct par Augustin Trapenard dans son émission Boomerang sur France Inter. On continue de filer la métaphore Barbara, toujours avec Jean-Louis Aubert. Cette fois-ci, de retour au micro de Vincent Josse, il s'exprime sur la vision présente, prégnante qu'il a d'elle.
Mais au Bataclan, je pense que Barbara y aurait été. Je pense qu'elle est un peu là d'ailleurs, parce que son dernier fax que j'ai reçu, elle m'a dit « je peux pas venir à l'Olympia, mais je reste dans ta guitare ». Puis elle est partie juste à ce moment-là. Et donc, je dis souvent ça au Bataclan, mais c'est le genre d'artiste qui aurait pu faire ça. Et j'aime beaucoup comment Barbara a été perçue par les gens, entourée comme si elle était au milieu de la vie des autres, et quelqu'un qui était très, très, très aimé.
Qui connaissait aussi une bonne partie de son public, hein,
oui,
comme vous.
Oui, c'était très, très humaine et très marrante. Moi, j'ai beaucoup rigolé avec elle, quoi. J'y allais. Voilà, elle aimait pas trop le respect. Elle me disait souvent, Jean-Louis, je suis plus rock que toi. Et puis, on s'est beaucoup amusés tous les deux. Elle m'a donné le goût du piano. Moi, je lui ai redonné le goût d'aller en studio. On était deux gamins. Mais ça m'a surpris parce que elle était entourée d'un énorme respect. Et moi, je l'avais pas encore, parce que je la connaissais pas bien, alors elle me donnait ses disques toutes les semaines et je les écoutais dans ma bagnole en rentrant, c'était même des cassettes le long d'un canal, là, ça me rappelait, et puis me racontait toutes ses aventures de sa vie, et j'ai eu de la chance parce que le respect, il a grandi au fur et à mesure que je la connaissais. Et je pense que ce qu'elle a adoré, c'est que quand je suis arrivé, elle dit bon, comment tu vas, on joue du piano ensemble. Et là, je me suis bien joué, on s'est mis à faire un quatre mains, c'était magique. Et du coup, voilà, puis on se retrouvait avec Gérard Depardieu, passait des soirées, mais on faisait tourner un bouquin de Rilke et chacun lisait un poème. Ben, c'était génial, ben, pour moi, c'était des soirées de rêve là, avec un verre de vin. C'était fantastique. Après, elle allait au piano, elle jouait. Gérard, il pleurait, agenouillé par terre, un peu sous. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin, parce que j'ai l'impression de rencontrer les gens du siècle que je voulais rencontrer. C'est comme dans le siècle d'avant, j'aurais bien aimé connaître Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Et j'ai l'impression... rencontrant Houellebecq, Philippe Garrel, Gainsbourg sur son canapé, je restais, je sais pas, 3 jours chez lui, et donc il voulait absolument que je connaisse Stravinsky, d'Oiseau de feu, donc il montait sur le canapé et il me faisait le chef d'orchestre pour que j'entende bien tous les instruments. Après, il allait m'acheter le disque et le casque qui va bien avec pour que je connaisse bien l'Oiseau de feu de Stravinsky. Et c'est des moments prodigieux, quoi. Pareil, de faire du quatre mains avec lui. Cette idée, on leur dit Jean-Louis et tout ça. C'est comme des copains, j'ai beaucoup de chance, quoi. Et c'est vrai que
Des fois, il y a des gens qui sont drapés de la liberté, mais comme c'était une attitude, comme dans l'art conceptuel, c'est-à-dire je suis libre, et donc je vais être un peu surintellectuel parce que je voudrais bien vous le montrer. Et moi, j'aime pas ça. Et donc ces gens ont eu la gentillesse de pas voir ça chez moi et de venir me voir quand même. Moi, je trouve que quand on est drapé de l'habit de la liberté, c'est la plus petite des prisons. J'ai envie de tout faire, je m'en fous, quoi. Je rencontre une petite chanteuse de grande variété et tout ça, et puis qu'on se parle, et ben, au bout d'un moment, je me dis, ah non, mais les chanteurs ont un truc en commun, j'ai un truc en commun avec elle, avec Laurie, ou l'autre fois, je faisais une émission avec Aya Nakamura, puis je regarde la première image du clip, et je dis, ah non, c'est pas possible, ça va être compliqué, là.
Toi, t'es bon qu'à planer, ouais, je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous, y'a un fossé, toi, t'es bon qu'à faire la main.
Et puis, je m'intéresse à son histoire, et je dis, mais c'est génial. Elle parle pour tout un quartier, toute une population, elle parle avec ses mots. Je comprends rien, alors je commençais à traduire les mots d'argot, et j'ai vu la force. De cette fille, je sais pas, les histoires avec les garçons.
Bébé, bébé du sale, allô, 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 million dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé, bébé du sale, allô, 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 million dollars, bébé, tu vaux ça.
Donc je suis arrivé comme d'habitude, j'ai mis la main sur l'avant-bras, juste avant de rentrer sur le plateau de France 2. Elle m'a regardé, elle regardait ma main, elle me regardait les yeux, elle disait. Est-ce que par hasard t'es en train de me mettre la main sur le bras? Et puis on a fini main dans la main. Et puis je me suis dit, ben elle est comme moi quand je suis arrivé au monde de la musique. Elle est avec la même révolte, la même fierté, la même. J'adore les diagonales, j'adore qu'aucune porte soit fermée.
Bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side.
Le Mac de l'été prendra donc pour philosophie les diagonales et ne fermera plus jamais aucune porte. On écoutait Jean-Louis Aubert, respectivement, dans le grand atelier de Vincent Josse et Boomerang d'Augustin Trapenard. Deux émissions à réécouter en intégralité sur l'appli ou sur franceinter.fr.
Pump up the volume, pump up the volume.
Dans le Mac de l'été, on rejoint Marseille, adossé au parc national des Calanques, se dresse le château de Forbin, qui depuis 3 jours est devenu un nouveau lieu d'art contemporain dédié au post-graffiti des années 80. Pour en parler, je reçois l'une des instigatrices du projet. Bonjour, Caroline Di Borgo.
Bonjour.
D'où est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de faire se rencontrer comme ça la scène artistique new-yorkaise des années 80 et une demeure historique en Provence?
Alors, l'idée nous est venue à la fois d'un désir, celui de partager notre passion pour le post-graffiti, et une volonté, celle de pouvoir présenter un ensemble d'œuvres produites dans les années 80 par des artistes issus à la fois du post-graffiti et des artistes issus de la scène de l'East Village, afin de faire découvrir ou de redécouvrir par cet accrochage les différents courants artistiques du mouvement, donc figuratif, abstrait et le lettrage, et un lieu qui peut paraître très souvent différent de ce qu'on peut imaginer pour une scène telle que la scène du post-graffiti, un château dont la première pierre a été posée au XVe siècle.
Vous proposez un programme qui allie du permanent et du temporaire.
Oui, tout à fait. Donc tout le long du permanent, il y aura un accrochage qui va évoluer au fil des saisons. Donc les différents artistes seront toujours présentés, tels que Nondi White, Ramel V, Futura 2000... En revanche, les expositions temporaires seront les expositions liées aux résidences d'artistes qui vont commencer à la fin du mois d'août. Donc chaque artiste qui viendra en résidence aura ensuite une exposition temporaire à l'intérieur du château. Et il faudra que ce qu'ils produiront sera en perspective et en parallèle, bien évidemment, avec l'exposition permanente.
Je remercie beaucoup Caroline Di Borgo. Je rappelle à nos auditeurs que le château de Forbin se trouve dans le 11e arrondissement de Marseille, traverse Cavaillon, et que pour l'instant, la visite de la galerie se fait sur rendez-vous exclusivement en allant faire un tour sur châteaudeforbin.com. Vous écoutez le Mac de l'été, on part au cinéma.
Have you planned your vacation yet?
On ira loin tous les deux.
Tout l'été, Et nous vous retrouvons dans ce Mac du week-end, Christine Masson, pour un voyage dans le cinéma et chaque fois avec un moyen de transport différent pour près, loin, ailleurs, conjurer ses démons ou aller au bout de ses rêves dans un film. Hier, c'était en scooter, aujourd'hui, ce sera à pied.
Combien de personnages, Émilie, de héros, plus souvent antiques que héros d'ailleurs, ont traversé l'écran à pied, on mettra de côté la course, c'est une autre discipline dans laquelle on aurait pu inclure bien sûr Forrest Gump. Forrest Gump qui traverse en courant près d'un demi-siècle de l'histoire américaine, ou alors, même si la BO est si belle, la course des chariots de feu de Huck Hudson, courir au-delà des préjugés xénophobes. Non, on préférera le rythme plus lent et plus grave, par exemple, d'un Saint-Antoinillois d'Agnès Varda, les derniers mois d'errance à pied de Mona, et l'étonnante contre-performance naturaliste de Sandrine Bonnaire, Mona, voyageuse libre et solitaire, jusqu'à l'issue fatale.
J'en ai rien à foutre de ta philo. Tu vis dans la même classe que moi. Sauf que tu te fatigues beaucoup plus. Moi, si j'avais fait des études, je vivrais pas comme toi. Parce que moi, ça m'a fait chier d'être secrétaire. J'ai quitté tous les petits chefs de bureau. Alors, c'est pas pour en retrouver un à la campagne.
Mais nous irons plutôt en Amérique, dans le désert californien.
Avec deux hommes, Jerry et Jerry, Casey Affleck et Matt Damon, dans Jerry, réalisé par Gus Van Sant en 2002. Très peu de paroles. Ils marchent sous un soleil écrasant, sans eau ni nourriture, et vont s'interroger sur leur amitié, une expérience sensorielle, épique, existentielle.
Where are you going? I don't know. You wanna help?
Toutefois, on préférera finalement cette palme d'or un peu oubliée de 1973 et signée Jerry Schatzberg.
L'épouvantail, avec deux des plus grands acteurs de ces années-là, ils le sont toujours, Gene Hackman et Al Pacino, le taciturne et le bavard. Le premier, Max, juste sorti de prison, rêve de monter une station-service. Il ne fait confiance à personne. Lion, lui, veut regagner un foyer qu'il a abandonné et croit en la bonté inhérente de l'humanité. Deux marginaux en Amérique, une grande histoire d'amitié et même d'amour filial qui démarre à pied sur une route déserte. Et ce plan fordien où Hackman apparaît de loin, descendant la colline sur fond de ciel noir. Pacino, caché derrière son arbre, l'aperçoit.
Okay?
C'est l'une des plus belles ouvertures de film, 7 minutes 45, montre en main. Et ce moment d'acteur unique, Pacino mimante une conversation fictive au téléphone.
Frank, what the hell's up? I'm out here now, it's 5 hours. I don't know what he said. What you talk to him? Well, wait a minute, I'll get him on the wire. Hold on there. George, hey, what the hell happened? I got Frank on the wire here. You want to talk to him? All right, go ahead. Talk!
Enfin, dans Paris, Texas, Wim Wenders, Emily a repris comme un cadavre exquis l'un des deux personnages de l'épouvantail pour une suite imaginaire.
On ira loin dans le Mac de l'été, une chronique de Christine Masson à retrouver quand vous le souhaitez sur l'appli France Inter ou sur franceinter.fr.
Le Mac de l'été, musique.
Il est avec nous dans le Mac de l'été, Joey Homicile. Bonsoir Joey.
Bonsoir.
Alors on commence par du live pour se remettre en mémoire votre apologie de l'amour puissant et consolateur, extrait de votre album Love Matters. On vous écoute Joey Homicile au saxophone, peut-être alto, peut-être soprano, à vos côtés Jenda à la basse, Jonathan Jurion au piano et Arnaud Dolmen à la batterie. Si tout le monde est prêt, peut-être que des derniers préparatifs. Joey Homicile a quitté son micro, donc j'attends quand même avant de le lancer qu'il y soit de retour. C'est bon Joey Homicile ?
C'est toujours bon.
Super, on vous écoute dans Calm Before the Storm dans le Mac de l'été. Thank you. Live dans le Mac de l'été, Joey au missile, Calm Before the Storm. Joey au missile, aujourd'hui, plus que jamais, votre philosophie du bash, beauté ascendante de la société honnête, une célébration musicale de l'amour et de la vie et une résonance absolument particulière.
Merci Émilie de nous avoir reçus ici, dans tes couloirs, dans ton laboratoire.
Je vous en prie, c'est un plaisir absolu.
C'est un plaisir. La beauté, elle se doit d'ascender. Parce que la société dans laquelle nous nous trouvons, malheureusement, est trop souvent malhonnête. Alors j'appelle à l'honnêteté et à l'élévation de nos esprits, de nos corps.
Et de nos âmes.
Et de nos âmes, définitivement.
J'aimerais parler de votre actualité musicale qui se passe aussi sur les écrans. Hein. Récemment, votre public vous a découvert jouant votre presque propre rôle. En tout cas, il s'appelle Joey, il est saxophoniste, dans la série Easy Eddy, réalisée notamment par Damien Chazelle, diffusée sur Netflix depuis début mai. Première expérience d'acteur.
Justement, première expérience d'acteur où ce que j'ai pu justement découvrir la liberté. Parce que être acteur, c'est vraiment être soi-même, mais sur différentes facettes. Parce qu'on peut tous passer par ce chemin, mais si on ne l'apprend pas, on n'est pas au courant. Alors, ça vient du feu intérieur, ça vient de l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir jouer ses caractères. Et puis, c'est ce que j'ai appris en travaillant avec Damien Chazelle, Alain Paul, Houda, Benyamina, qui est super magnifique directeur, et aussi Marachi.
Et c'est que le producteur américain Glenn Ballard a réuni une espèce de All-Star Band de feu. Et vous avez...
Ballard et Randy Kerber, ce sont les deux compositeurs justement.
Il ne se passerait pas quelque chose entre le pianiste américain Randy Kerber et vous?
Ah ouais, il se passe plein de choses. Justement, on a joué tout dernièrement au Duc des Lombards. Et on prépare aussi un voyage en duo.
Ah, quelle piste vous allez explorer? Dans quel pays vous allez voyager?
Voyager dans l'univers, parce que les pays, de voyager dans les pays, ce serait se restreindre.
Le pays imaginaire.
Des pays imaginaires, voilà. Alors, si notre imagination est fruitée, on pourra justement se délecter de ce genre de son qu'on vous offrira. Très bientôt.
Et il se pourrait que vous nous offriez peut-être même quelque chose. J'ai cru comprendre que pendant cette période si singulière et pendant ce confinement, vous avez été prolixe et créatif. Vous avez enregistré comme ça des dizaines d'heures de musique.
Des dizaines d'heures. Contrairement à mon acolyte Jonathan Jurion, qui s'est plongé dans des recherches très approfondies de la nature. Moi, je me suis plongé en même temps avec lui pendant qu'il m'enseignait, mais aussi j'ai beaucoup créé musicalement et j'ai été encouragé par Jenda et Arnaud qui criaient aussi. Et nous tous ensemble, vraiment, on s'est vraiment motivés. Même Olivier qui est là, il m'a amené des micros, des stands. Durant le confinement masqué, au bal masqué.
Je vois que chacun des musiciens est hilar en fond de studio. Et est-ce que le public va pouvoir découvrir ces heures de musique?
Oui, le public le découvre maintenant. Parce qu'on est dans la réalité. Si vous connaissez mon répertoire, vous ne m'avez jamais entendu jouer comme aujourd'hui. C'est la première fois que je joue comme ça, parce que même moi, je me surprends aujourd'hui même. C'est-à-dire, on est totalement dans une nouvelle stratosphère et on est en plein voyage.
Et alors, deuxième surprise pour le Mac de l'été, je vous ai demandé une reprise.
Voilà. On va reprendre le Cap-Vert, c'est Luis Moraes, un grand pilier de la musique cap-verdienne.
Clarinettiste, saxophoniste.
Maestro, professeur du Cap-Vert, il vient de Mindelo. Et c'était aussi le directeur musical de Cesaria Evora.
On vous écoute, Joey au missile, oui. Dans... Pipilita,
ou
peut-être le prononcer-je comme il ne faut pas. Ah, c'est ça ?
Ceux qui connaissent Pipilita, ce ne sera jamais comme ça encore. Thank you.
live dans le Mac de l'été avec Joey au missile. Merci beaucoup, Joey au missile. Et alors, tout en musique, je vais même pouvoir annoncer vos dates. Et ça, c'est quand même un vrai plaisir. Vous serez le 15 septembre au Théâtre de Vesoul, le 19 septembre à Mantes-la-Jolie, le 20 septembre en Allemagne, le 13 octobre au New Morning à Paris. Je m'arrête là, mais vous aurez plein d'autres dates. Et puis, on peut également vous voir dans The Eddy. Je vais demander un nouveau générique. C'est la fin du Mac de l'été. Venez avec moi, Joey au missile, pour dire à vendredi prochain. Chers auditeurs, à vendredi prochain dans le Mac de l'été.